Jude 1 et 2. Et vous allez voir que ces deux courts versets ont absolument beaucoup à nous apprendre. Jude 1 et 2 donc. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Prions. Seigneur, c'est un texte qui est absolument court, qui ne présage en rien, Seigneur, de la densité, Seigneur, de la profondeur de cette lettre. Et on a besoin de ta grâce aujourd'hui pour nous aider ensemble à regarder ce que tu veux nous enseigner au travers de deux simples versets comme cela. Seigneur, bénis notre Église qui est rassemblée aujourd'hui, encourage-nous, dirige-nous et conduis-nous. Seigneur, on te prie pour que tu nous gardes alors que nous sommes aujourd'hui rassemblés en ce jour peu nombreux, avec cette pluie battante qu'il y a dehors, mais que tu nous bénisses et que tu réchauffes nos cœurs, Seigneur. Que tu nous conduises dans ce grand combat de la foi, que tu permets, Seigneur, que tu contrôles et que tu diriges. Nous nous en remettons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut le dire, il faut le noter, et je pense qu'il faut que vous le reteniez. Toutes les lettres du Nouveau Testament sont importantes, et dans toutes ces lettres, vous avez des sections. Si vous passez trop rapidement dessus, vous allez passer sur des passages ou des informations qui sont centrales pour la compréhension de la lettre, de l'épître en question. Il est très très important, notamment, que vous vous focalisiez sur les introductions des lettres du Nouveau Testament que vous lisez dans votre lecture personnelle. C'est important dans les lettres de Paul, parce que Paul s'en servait souvent pour établir clairement son objectif, donner une idée des principaux thèmes abordés dans l'épître, et puis il souvent nommait les grands points de la lettre, les grands points qu'il aborderait. Mais il faut bien comprendre que ces lettres avaient pour les premiers lecteurs quelque chose de spécial lorsqu'on parlait d'introduction et de conclusion. Déjà, il faut que vous compreniez une chose, c'est que si nous sommes rassemblés aujourd'hui, si je faisais un petit sondage, je suis convaincu que 100% ou presque 100% des gens qui sont dans cette salle ont un bon niveau de lecture, ou en tout cas qui savent déchiffrer des livres et qu'ils savent aussi écrire. C'est ce qu'on appelle l'alphabétisation. Au Canada, il y a, somme toute, un assez bon niveau d'alphabétisation. Mais au 1er siècle, ce n'était pas comme ça que ça marchait. Il y avait un niveau d'alphabétisation très faible, meilleur qu'à l'époque du Proche-Orient ancien, bien sûr, mais les lettres étaient le plus souvent écrites par des professionnels de l'écriture. C'était des scribes, des écrivains publics en quelque sorte, et ces personnes-là avaient un statut important. C'est eux qui rédigeaient vos courriers officiels, vous voyez, mais c'était aussi eux qui vous permettaient de lire des courriers que vous n'étiez pas capable de lire si vous n'aviez jamais reçu l'éducation nécessaire. Je pourrais vous illustrer ça si un jour vous avez l'occasion de regarder Elodie, mon épouse, et que vous la regardez déchiffrer des lettres arabes. Elle sait lire l'arabe, mais elle ne le lit pas comme elle le parle. Elle parle très très bien l'arabe, elle est bilingue, mais son déchiffrement de la langue arabe est vraiment lettre par lettre. Il faut qu'elle aille tout doucement. Si elle devait lire une missive ou une lettre complète ou même un texte complet en arabe, ça lui prendrait beaucoup de mal, il lui prendrait beaucoup de temps. Tandis que si quelqu'un qui lit très très bien l'arabe le lui lisait, eh bien elle pourrait comprendre tout ce qui se trouve dans ce texte. Et c'était un peu la situation des personnes au 1er siècle après Jésus-Christ avec la langue grecque. Et donc souvent les lettres, je le disais, étaient écrites par des écrivains publics, mais l'introduction et la conclusion, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, elles étaient écrites par la main de celui qui envoyait le document. D'ailleurs, on le voit dans l'épître aux Galates, on voit Paul qui veut attester que c'est lui-même qui se trouve derrière cette lettre. Il dit « Voyez quelle grande lettre je vous ai écrite de ma propre main », très certainement une référence au fait qu'il avait des problèmes de vue et qu'il écrivait avec de très très grandes lettres. Donc, comprenez bien que cette partie-là, l'introduction et la conclusion, ces deux parties-là étaient souvent les parties qui étaient les plus personnelles, les plus chargées en émotions, celles qu'on s'attendait à, je dirais, où on attendait à voir l'auteur, celui qui était le vrai auteur de la lettre, se révéler le plus pleinement. C'était la partie la plus authentique, la plus chargée d'émotions. Donc quand on vient, nous qui sommes des lecteurs du 21e siècle, regarder ces lettres-là et qu'on s'y intéresse, il faut qu'on prête une attention particulière aux introductions et aux introductions des lettres de Paul, mais pas seulement aux introductions des lettres du Nouveau Testament en particulier. Du coup, on a ces deux versets-là qui introduisent l'épître de Jude et on se dit, mais qu'est-ce que ces deux versets peuvent nous apprendre ? Eh bien, ils nous apprennent quand même un certain nombre de choses. Déjà, ils nous révèlent l'identité de l'auteur de cette lettre, qui n'est autre, n'est-ce pas, que Jude. Et puis, ils nous donnent de précieuses indications sur les destinataires de cette épître. La lettre ne les nomme pas, elle ne leur donne pas de nom, mais ils sont décrits comme ceux qui sont appelés. Voilà qui ils sont, les destinataires de Jude. Et puis, on le voit, il y a un vœu, il y a une relation particulière entre l'auteur et les destinataires, et cette lettre va marquer la profonde relation que Jude avait avec ses lecteurs, et on le voit, cette profonde compassion, dans son souhait de compassion, de grâce et d'amour multiplié. Et on va regarder, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, ensemble, chacun des aspects de cette introduction. La première information donc que nous voyons dans cette lettre, c'est l'identité de l'auteur. L'identité de l'auteur de cette lettre. Il se présente d'emblée, il se nomme dès l'ouverture de la lettre, il s'appelle Jude. Le problème, c'est que Jude, c'est un prénom qui était particulièrement courant au 1er siècle après Jésus-Christ et il pourrait désigner tout un tas de personnes, ne serait-ce que si l'on regarde au Nouveau Testament. Alors en grec, Jude, c'est Judas, et à vrai dire, c'est exactement le même prénom que Judas Iscariot. C'était un prénom qui était extrêmement commun parmi les Juifs du 1er siècle, à tel point que Jésus, parmi ses 12 apôtres, il en avait deux, et les auteurs du Nouveau Testament étaient obligés de les désambiguer, de dire qui était qui, à tel point que quand on nomme Jude, qui est Thaddée dans la Bible, eh bien à un moment donné dans la Bible, vous avez indiqué Jude, non pas l'Iscariot, vous voyez, pour pas qu'on les confonde. Il ne faut surtout pas les confondre. Vous avez un qui a suivi le Seigneur jusqu'au bout et l'autre qui a livré le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'on a comme référence où le nom de Judas, Jude, est utilisé ? Eh bien, je les ai comptés, il y a, écoutez bien, 45 références à des Judes dans le Nouveau Testament. Déjà, il y a Judas Iscariot, il y a aussi le nom grec de la tribu de Judas, qui est mentionné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, c'est utilisé en disant Judas, parfois même la région tout entière de Judée est appelée Judas. Il y a aussi Judas le Galiléen, qui est un révolutionnaire, vous vous souvenez peut-être, qui est mentionné par Gamaliel en acte 5, 37. Il mentionne ce Judas le Galiléen comme la preuve que si ce n'est pas une entreprise de Dieu, elle périra par elle-même. Vous avez aussi un dénommé Judas de Damas. Judas de Damas, c'était une personne qui était donc dans cette ville de Syrie et qui était celui chez qui Paul a logé juste après sa conversion. Acte 9, verset 11. Il y avait un autre Judas qui s'appelait Barsabas, c'est un prophète qui vivait à Jérusalem, qui est mentionné en acte 15. Et puis, il y avait un dénommé Jude, l'un des 12, celui que je viens d'identifier avec Thaddée. Historiquement, c'est l'option la plus probable. Donc, on a déjà pas mal de candidats, vous voyez, pour les écrivains de cette lettre. Et puis, il y en a encore un. Il y a Jude, qui est mentionné comme étant le frère de Jésus, qui est mentionné dans Matthieu 13, 55 et dans Marc 6, 3. Alors voici l'enquête ouverte, sortez vos loupes et regardez les empreintes. Qui est donc celui qui a écrit notre épître de Jude ? Eh bien, il y a, à mon avis, deux indications décisives qui peuvent nous permettre de trancher. Première indication décisive, celui qui écrit l'épître ne semble pas faire partie des 12 apôtres. Regardez le verset 17. On ne va pas regarder le verset 17 aujourd'hui en détail, mais si vous regardez bien ce verset 17, Jude parle du groupe des apôtres comme s'il n'en faisait pas partie. Il parle de l'enseignement apostolique comme étant récent. Ses lecteurs avaient entendu le message des apôtres. Il leur dit, voilà, souvenez-vous de ce que les saints apôtres vous ont annoncé. Donc ils avaient entendu ce message, a priori directement, mais Jude lui-même ne semble pas dire « Regardez ce que moi je vous ai déjà annoncé en tant qu'apôtre précédemment. » Et puis, ce qui est vraiment frappant, et là j'aimerais qu'on le note et qu'on le souligne, c'est qu'il mentionne cette tradition apostolique comme faisant autorité, limite comme s'il voulait dire « Moi je vous écris cette lettre, mais il y a une tradition qui prévaut et je m'inscris dans cette tradition apostolique. Et je crois que c'est important qu'on souligne cela. Parce que premièrement, ça nous renseigne sur l'identité de notre auteur. Oui, il n'était pas apôtre, ok, on le note. Mais cette notion d'autorité apostolique n'est pas une invention ultérieure de l'Église pour asseoir son autorité ou je ne sais quoi d'autre. Quelles qu'aient été les dérives à ce sujet durant l'histoire de l'Église, eh bien, les auteurs bibliques présentent systématiquement les enseignements apostoliques comme marqué du sceau de l'autorité divine. À aucun moment il n'en déroge, à aucun moment il ne cherche à esquiver cette tradition. Même l'apôtre Pierre fait exactement la même chose. De Pierre 3, qu'est-ce qu'il dit à propos des lettres de Paul ? Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Voilà ce qu'il veut dire. Et il dit, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Et puis il mentionne que notre bien-aimé frère Paul, il a écrit beaucoup de lettres, dont certains passages sont difficiles à comprendre et dont certains, dit-il, tordent le sens, comme ils le font, de quoi ? Des autres écritures. Pour l'apôtre Pierre, vous prenez les lettres de Paul, vous prenez les autres écritures, à savoir l'Ancien Testament, c'est le même poids d'autorité, c'est la même tradition qui certes s'étire sur plusieurs siècles, mais qui ont la même autorité, c'est scellé de la, du sceau de l'Esprit-Saint, scellé de l'inspiration, scellé du don de Dieu. Donc nous ferions bien de prendre attention, de prendre garde à cette tradition apostolique, non seulement parce que dans notre recherche de qui est l'auteur de cette lettre, c'est important de noter qu'il se distingue des personnes qui étaient dépositaires de cette tradition, mais en plus parce que ça nous rappelle que si les premiers chrétiens y accordaient autant d'importance, nous ferions bien nous aussi de placer la primauté, ou plutôt de placer le fait que ça soit la pierre de touche de notre foi sur cette tradition apostolique telle qu'elle est consignée dans les Écritures. Donc première indication décisive, celui qui a écrit l'Épître semble ne pas faire partie des 12 apôtres. La deuxième indication décisive, elle nous est donnée dès le verset 1, elle nous dit que Jude est le frère d'un dénommé Jacques. Et là encore, on pourrait se demander, mais de quel Jacques s'agit-il ? Parce que s'il y a beaucoup de Jude dans la Bible, il y a aussi beaucoup de Jacques. C'est là le problème. Et là encore, vous avez plusieurs Jacques qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas m'amuser à vous en faire l'inventaire. Ce n'est pas le but. Mais il y a notamment un Jacques qui est apôtre. Il y a aussi un Jacques qui est aussi le frère de Jésus. De quoi brouiller les pistes. Donc, à mon sens, quand vous procédez par élimination, il ne reste que deux possibilités. Il n'y a que deux Jude qui sont connectés familialement à des Jacques dans le Nouveau Testament. Il y a Jude l'apôtre, qui est le fils d'un dénommé Jacques, ce qui a pu laisser penser à certains commentateurs qu'une erreur se serait glissée, que ce serait bien l'apôtre Jude qui était le fils de Jacques qui aurait écrit cette lettre et qu'on se serait trompé entre fils et frère. Le problème, c'est qu'on n'a aucun manuscrit qui défend cette thèse. Ou bien vous avez le frère de Jésus, qui lui-même a un frère, qui était aussi frère de Jésus, qui s'appelle Jacques. Jude, frère de Jacques. Et en plus de cela, ce Jacques en question, c'est très légitime de l'avoir mentionné au début d'une lettre, parce que ce Jacques, frère de Jésus, c'était quelqu'un qui jouissait d'une très grande popularité dans l'Église du 1er siècle. C'était l'un des responsables, l'un des anciens, l'un des pasteurs de l'Église de Jérusalem. Et donc, c'était tout à fait légitime de le mentionner. Et donc, si on procède par élimination, il semble que le seul personnage qui semble correspondre, c'est Jude, c'est le frère de Jésus et le frère de Jacques. Mais là où c'est vraiment frappant à mon sens, c'est qu'à aucun moment, il ne mentionne ce lien de parenté avec Jésus en préambule. Soyons clairs, si moi je suis le frère de Jésus, et j'écris une lettre, et j'espère avoir de l'influence avec ma lettre, la première chose que je vais dire, c'est « Salut, moi, c'est Guillaume, le frère de Jésus. » Mais Jude, il commence même pas comme ça. Il dit « Jude, serviteur de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques. » N'importe quel chrétien du 1er siècle aurait pu se désigner lui-même serviteur de Jésus-Christ. N'importe quel chrétien du 21e siècle devrait pouvoir dire de lui-même « Je suis le serviteur de Jésus-Christ ». Nous-mêmes, nous pourrions dire cela donc. Mais pourquoi Jude ne met-il pas en avant ce lien de parenté ? Jude n'est pas apôtre, on l'a dit. Il ne peut pas se prévaloir de ce titre d'apôtre. Sa seule autorité repose sur son lien de parenté avec un responsable très en vue de l'église de Jérusalem. Mais même cela ne semble pas être un argument de poids à ses yeux. Son statut de serviteur, d'esclave de Jésus-Christ est à ses yeux bien plus important que n'importe quel lien de parenté avec le Sauveur lui-même. C'est pour lui un lien qui est encore plus fort, meilleur que les liens du sang. Autrement dit, mieux vaut être de la famille spirituelle de Jésus que d'être de sa famille terrestre. Et je crois que ça tombe sous le sens, peut-être que je vous le rappelle aujourd'hui, mais c'est tellement important de se souvenir de cela. Je me rappelle à titre personnel, mes premières années de lecture de la Bible, ça m'arrivait parfois de réfléchir et de déprimer en me disant « Oh, j'aurais bien aimé vivre au premier siècle, comme ça j'aurais peut-être pu avoir mon nom écrit dans la Bible. » Quelle vanité! Premièrement, à quoi ça m'aurait servi? Deuxièmement, il y a des gens dont le nom est écrit dans la Bible, vous ne voulez pas être ces gens-là, n'est-ce pas? Des gens rejetés, des gens déchus, vous avez Judas Iscariot qui est mentionné dans la Bible, vous auriez été prêt à faire ça pour être écrit dans la Bible, n'est-ce pas? C'est un non-sens. Mais enfin et surtout, nous devrions nous réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux, pas que nos noms sont inscrits dans un livre antique du 1er siècle ou dans je ne sais quel témoignage qui rendrait notre nom grand. Et derrière cette réflexion, chers amis, il y a la question du service. Quel est notre appel en tant que serviteur de Jésus-Christ ? Servir Christ ou prendre une position spéciale, prendre une gloire spéciale, hériter d'une lumière spéciale sur la manière dont je mène ma vie en Christ ? Est-ce réellement le but que nous poursuivons lorsque nous sommes chrétiens ? Ça paraît des fois troublant. Et ça peut peut-être nous traverser l'esprit. Je vous mentirais si je vous dirais que je n'ai pas à lutter avec ça. Je pense que tous ceux qui sont placés en responsabilité dans l'Église, ou à un moment ou à un autre, le fait de s'approprier la responsabilité qu'ils ont au point qu'ils se disent à un moment « c'est à moi et je ne veux pas qu'on l'enlève », vous voyez ? Mais si nous sommes en responsabilité dans l'Église, c'est pour le service de tous, pour le service de la communauté, pour le bien des croyants, et nous devrions accepter que cette charge, elle nous est donnée exclusivement en vertu de l'appel de Christ, et certainement pas pour faire carrière. Et c'est important qu'on se souvienne de cela. Parce que l'homme tire une couronne de tout, y compris d'être une balayure du monde. Parce que c'est ce que nous sommes en tant que chrétiens, c'est ce que Paul dit de lui-même. Et nous devrions nous souvenir de cela. Et nous souvenir de l'attitude de Jude qui ne préfère pas mettre son lien de parenté avec le Seigneur en avant, c'est mon frère, mais qui dit simplement « je suis serviteur de Jésus-Christ ». Et la lettre de Jude, chers amis, en nous révélant qui il est dès le premier verset, eh bien elle nous montre que c'est un serviteur de Jésus-Christ qui s'adresse à d'autres serviteurs de Jésus-Christ et comme nous le verrons, sa lettre est avant tout une mise en garde de serviteurs à d'autres serviteurs. Et voilà pourquoi nous devrions prêter attention, nous qui sommes serviteurs de Christ, si c'est bien ce que nous sommes. Nous avons ici un homme privilégié qui a vu de ses yeux notre Seigneur et Sauveur vivre et qui donne une solennelle mise en garde à ses contemporains du 1er siècle. Et cette mise en garde s'adresse aussi à nous également. Première information donc. L'auteur de cette lettre, c'est Jude, c'est le frère de Jésus, le frère de Jacques, mais il est avant tout un serviteur de Jésus-Christ. La deuxième information que nous apprenons dès l'introduction de cette lettre, eh bien, c'est l'identité des destinataires de cette lettre. Et j'ai déjà l'impression, en vous mentionnant ce deuxième titre, en vous parlant d'identité des destinataires, que je vous tease, vous voyez, je vous donne un peu trop de matière déjà par rapport à ce que la lettre nous dit, parce qu'en fait, la lettre ne nous dit absolument rien sur l'identité de ces destinataires. Il n'y a absolument aucune donnée exploitable qui nous permette de mettre un nom ou une communauté sur qui étaient les destinataires de cette lettre. L'épître ne contient aucune mention géographique, aucune mention de date qui pourrait nous aider, aucune mention d'un événement historique que l'on pourrait retracer pour faire des parallèles avec ce qui est écrit dans le texte. Jude, apparemment, écrit en grec, mais il fait des références à des œuvres qui semblent davantage renvoyées au judaïsme. Il fait mention de la première lettre, de ce qu'on appelle un Enoch, non pas de la première lettre, mais d'un livre apocryphe qui s'appelle un Enoch, et puis d'un autre livre apocryphe qui, possiblement, est le testament de Moïse. Cependant, ces œuvres étaient possiblement connues de la plupart des chrétiens du 1er siècle. Donc ça ne nous donne aucune information décisive, on ne peut pas sur cette base déterminer qui sont les destinataires. Mais il y a des spécialistes du Nouveau Testament qui aiment bien spéculer pour essayer de déterminer qui sont ces destinataires. Ils s'en donnent à cœur joie depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y a trois hypothèses que je mentionne en passant qui semblent se détacher des autres. Il y a l'hypothèse de croyants syriens, qui est à mon avis la moins populaire. Il y a l'hypothèse de croyants qui seraient dans la ville d'Alexandrie, en Égypte. Celle-ci a reçu quelques soutiens de poids. Mais l'hypothèse qui paraît la plus défendue et qui, à mon sens, est tout à fait probable, c'est l'hypothèse de croyants qui seraient situés en Palestine au 1er siècle, donc possiblement l'église de Jérusalem ou ceux qui en découleraient, et qui est aujourd'hui défendue par la majorité des commentateurs, mais souvent avec beaucoup de réserve, souvent timidement. Même si pour ma part la dernière option me paraît acceptable, aucune, je pense, ne s'impose réellement. Ce ne sont que des conjectures. Et vous savez quoi? Ça ne nous est d'aucune utilité pour comprendre et interpréter cette lettre. Mais ce n'est pas tout. Jude ne semble pas cibler un groupe particulier dans l'Église. On n'a pas l'impression qu'il cible une Église particulière, un groupe de personnes particuliers au sein d'une Église particulière. Il ne parle qu'à ceux qui sont appelés, aimés de Dieu le Père, gardé pour Jésus-Christ. On a l'impression qu'il utilise ici comme une formule que tous ceux qui sont chrétiens, en fait, au 1er siècle, auraient pu s'appliquer à eux-mêmes. Ils auraient pu se reconnaître ainsi. Autrement dit, cette lettre peut très bien s'adresser à nous. On pourrait très bien la lire. Bien sûr, elle ne nous a pas été envoyée à nous directement, mais on pourrait très bien correspondre au type de personne que Jude pouvait cibler. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est possible que cette lettre était destinée à circuler, que c'était une circulaire qu'il envoyait à quelques chrétiens avec l'intention qu'elle soit diffusée et qu'elle circule. Cependant, il emploie une série de qualificatifs pour qualifier ses lecteurs, une série de mots qui ont leur importance. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde chacun de ces mots en détail. Il leur dit « ceux qui sont appelés, aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ ». Qu'est-ce qu'il entend par « appeler » ? Pourquoi est-ce qu'il appelle ses destinataires les « appelés » ? L'idée est bien sûr de Dieu, celle de Dieu qui appelle des individus, mais une fois qu'on a dit cela, ça peut être beaucoup de choses. Prenons par exemple l'idée d'un recensement. Quand vous faites un recensement d'un pays, ce que vous faites, c'est que vous appelez toutes les personnes du pays en âge de répondre au recensement et vous le faites pour que chacun réponde afin que vous connaissiez la population exacte du pays. Le but n'est pas que quelqu'un se dissimule et esquive le recensement, mais plutôt que tout le monde puisse répondre à l'appel et qu'on puisse avoir une idée plus ou moins globale du nombre d'habitants que vous avez au Canada, en France, aux États-Unis, bref, dans le pays ou la région qui fait ce recensement. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle un appel général. Est-ce que ce style d'appel est en vue ici lorsque Jude parle de ses destinataires et qu'il les nomme les appelés ? Probablement pas. Tout dans la lettre, en fait, indique que l'appel dont il est question ici est un appel spécial, un appel efficace, un appel restreint à quelques individus. Un appel qui fait de ces individus quelque chose de spécifique ou un groupe spécifique. Exactement le même type d'appel que celui que serait une grâce présidentielle. Je ne sais pas si vous avez ce phénomène de grâce annuelle que vous avez ici au Canada, mais en France, on a un principe qui s'appelle la grâce présidentielle. Chaque année, le président fait une grâce à plusieurs détenus qui sont en prison et écourte leur peine ou les libère. Et c'est exactement ce que Joseph... Vous vous souvenez, Joseph, le fils de Jacob, qui était vendu comme esclave en Égypte et qui se retrouve enfermé dans une prison, eh bien, c'est ce que Joseph va expérimenter. Il va découvrir le rêve de Pharaon. Vous relirez chez vous à partir de Genèse 37 jusqu'à la fin de Genèse. Et en découvrant le rêve de Pharaon, Pharaon va lui faire grâce et va le sortir de prison pour l'établir à ses côtés, pour qu'il soit un de ses proches conseillers. Il n'y avait rien qui pouvait sortir Joseph de son trou. Il fallait un appel spécial de la seule personne en autorité capable de le faire. Il fallait que cette personne-là appelle Joseph à ce moment précis pour qu'il soit libéré et pour qu'il prenne cette position-là. Et c'est exactement à ce type d'appel spécial que Jude fait référence, comme les autres auteurs du Nouveau Testament le font un peu partout. C'est un appel de personnes qui sont ainsi rassemblées efficacement au travers de la proclamation de l'Évangile et rassemblées pour former un seul peuple. Et ce peuple, c'est l'Église. C'est un appel donc spécial. Et pour le lecteur de Jude, ce rappel, c'est que la manière dont ils sont appelés, c'est à la fois la source de leur identité, mais aussi la source de leur espoir. Alors qu'ils s'apprêtent à leur démontrer à ses lecteurs l'erreur de plusieurs individus qui se sont glissés au milieu d'eux et qui vivent à ce moment précis dans l'Église, Jude commence en leur disant « Vous à qui j'écris, vous êtes appelés. Vous faites partie du peuple de Dieu. Vous qui recevez mon courrier, qui le recevez et qui l'acceptez, qui prenez ses paroles et vous les appropriez, vous faites partie de ceux qui sont appelés. Vous faites partie de ceux qui sont en alliance avec Christ, qui sont au bénéfice de cet appel efficace. C'est vous qui êtes à Christ. Et Christ est la source de votre espoir éternel. » En leur disant qu'ils sont appelés, ils leur disent simplement qu'ils appartiennent à Christ, qu'ils sont le peuple de Dieu. Et c'est à ce titre-là qu'il prend la plume pour leur écrire, pour leur dire « En votre sein, il y a des gens qui ne sont pas le peuple de Dieu. Il y a des gens qui se comportent comme s'ils n'avaient jamais été le peuple de Dieu. Et ils vous entraînent avec eux, prenez garde. Mais avant toute chose, soyez encouragés de ce que vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes appelés. » Deuxième chose, il leur dit « Vous êtes aimés par Dieu le Père. » On vient de dire que Jude écrit à des personnes qui sont efficacement appelées, mais si elles le sont, eh bien Jude dit c'est parce qu'elles sont aimées. Ce n'est pas juste un appel par intérêt. Je veux dire, le pharaon appelle Joseph dans sa prison parce que Joseph lui donne l'interprétation de son rêve, parce que Joseph lui est utile, parce que Joseph sait l'avenir et sait ce qui va se passer dans le pays d'Égypte. Il va pouvoir organiser le pays. Mais ce que Jude dit ici, c'est que l'appel efficace que ses lecteurs ont reçu de la part de Dieu ne se fonde sur rien d'autre que son amour inconditionnel qui n'est absolument pas dépendant de quelques conditions, de quelques œuvres qu'ils auraient faites. La source de cet appel, c'est l'amour de Dieu et c'est cet amour qui implique son choix souverain. Si vous parcourez la Bible à la recherche de ces deux thèmes, de ces deux notions, d'un côté l'appel souverain et efficace de Dieu, de l'autre l'amour de Dieu, vous allez voir que très souvent ils sont combinés les uns aux autres et souvent le dessein d'élection de Dieu est directement associé à son amour. Par exemple, l'appel d'Abraham ou l'appel d'Israël sont régulièrement associés à la puissance et à la souveraineté de Dieu, mais aussi à son bon vouloir bien sûr, mais à son amour infini. De la même manière, le Nouveau Testament présente régulièrement l'amour de Dieu en association avec son appel efficace, en association avec son décret d'élection. Relisez Romains 9, 25 chez vous, relisez le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, relisez Colossiens 3, 12, relisez tous ces passages qui vous montrent que Dieu aime son peuple et par conséquent il les appelle. Les doctrines de la grâce, celles que nous défendons dans cette Église, notamment l'élection et l'appel efficace, ne sont rien d'autre que la manifestation concrète de l'amour de Dieu pour son peuple. Hier, on est rentré de France, Élodie et moi, et la première chose qu'on a fait, c'est de nous rendre à la douane pour tenter de renouveler nos papiers d'immigration. Alors, ça n'a pas fonctionné comme on aurait voulu, c'était une grande source de frustration pour nous, mais ça m'a donné à réfléchir sur ce que je suis en train de vous dire ici. Parce que nous sommes rentrés en territoire canadien munis d'un visa, ou plutôt d'une dispense de visa, d'un permis de visiteur pour Élodie et pour moi. Et puis Jules, notre fils, qui est né au Canada, Bah lui, il est rentré au Canada, il a juste à montrer son passeport. Enfin, on l'a montré pour lui, je vous explique. Hein. On l'a montré au douanier et il a pu rentrer en territoire canadien. Et j'ai envie de vous dire, pour pouvoir rentrer en territoire canadien, il fallait qu'on ait un mérite particulier. Élodie et moi, il fallait qu'on ait un travail. Concrètement, moi en tant que pasteur ici de cette communauté, Élodie en tant que médecin à Montréal-Nord, oui, il fallait qu'on ait ce travail pour pouvoir avoir les documents d'entrée nécessaires. Pour Jules aussi, il fallait quelque chose, un mérite particulier. Le mérite particulier de Jules, c'est pas qu'il a un travail particulier, il est incapable de travailler, on s'entend. Jules est né au Canada, c'est ça son mérite. Il a un mérite particulier. Et c'est pour ça, c'est en vertu de ce mérite qu'il peut rentrer au Canada. Mais votre insertion dans l'Église, chers amis, votre appel efficace n'a strictement rien à voir avec un mérite de votre part. Votre présence dans l'Alliance de Dieu, votre insertion dans l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, je ne vous parle pas du bâtiment ici, ou de la chaise, ou du banc sur lequel vous êtes assis, ni même des relations que vous entretenez les uns avec les autres. Je vous parle du fait que vous faites partie de cette Église invisible, celle pour qui Christ a versé son sang. Eh bien, cette chose-là ne dépend d'aucun mérite de votre part. La citoyenneté céleste que vous avez reçue, si vous êtes à Christ, eh bien, cette citoyenneté céleste ne dépend de rien d'autre que des mérites de l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Rien à vous, tout à lui seul soit la gloire à cause de cet amour. Non seulement donc, cet amour nous rappelle qu'il est le fondement de l'appel des personnes auxquelles Jude écrit, le fondement de notre appel à nous aussi, mais le temps du verbe utilisé nous montre que cet amour n'est pas simplement limité à, j'ai envie de dire, un droit d'entrée dans l'Alliance. C'est également un amour permanent. Cet amour divin ne se limite pas à l'appel initial du croyant. Il est présent jusqu'au bout, il continue. C'est un amour qui nous soutient jour après jour et qui environne notre vie. Et cela est d'autant plus important au regard de la troisième caractéristique des lecteurs qui sont mentionnés dans ces deux petits versets. La troisième caractéristique des lecteurs de l'épître de Jude, eh bien, c'est qu'ils sont gardés pour Jésus-Christ. Ici, il y a deux traductions possibles. C'est la grande question des différents génitifs qu'on peut voir dans le grec. Si vous avez des questions sur tout ce qui est génitif objectif, génitif subjectif en grec, vous allez voir Daniel Saglietto qui va vous renseigner là-dessus. Vous allez voir, il est très doué pour vous faire mal à la tête avec la grammaire grecque. Vous avez ici quelques étudiants à la FTE qui pourront témoigner de cela. Ils vous diront tout ce que vous avez besoin de savoir à propos de Daniel sur ce sujet-là. Donc deux traductions possibles, gardées par Jésus-Christ ou gardées pour Jésus-Christ. Et en fait, les deux, dans ce cas précis, elles sont non seulement possibles de manière linguistique, mais en plus elles sont possibles théologiquement. Cependant, à mon avis, le contexte de l'épître suggère que c'est plutôt gardé pour Jésus-Christ qui est en vue ici. Autrement dit, les croyants auxquels Jude écrit, ils sont appelés de manière efficace parce qu'ils sont aimés de manière inconditionnelle par Dieu le Père, et ils seront ainsi aimés pour Jésus-Christ, autrement dit, pour le jour de Jésus-Christ. Ce jour-là, l'amour de Dieu les portera jusque-là, de sorte qu'ils pourront persévérer jusqu'à ce jour. Alors, oui, ce jour n'est pas mentionné dans les deux premiers versets que nous avons lus aujourd'hui, mais regardez le dernier verset de l'Épître de Jude, regardez le verset 21, et vous verrez que ce jour de Christ est absolument implicite et que c'est le point vers lequel toute l'Épître se focalise. C'est ici qu'un point important, à mon avis, que Jude veut établir dès son introduction. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, il s'apprête à tirer un contraste radical. Les deux premiers versets sont plutôt sympas. La suite de la lettre, c'est pas très drôle. Il va tirer un trait, en fait. Et il va dire, regardez, un chrétien authentique, c'est de ce côté-là. Un faux chrétien, c'est de ce côté-là. Et si vous êtes un chrétien authentique, voilà comment vous devez combattre. Mais pour lui, dire que dès le commencement, les chrétiens authentiques sont appelés efficacement, aimés inconditionnellement et gardés persévérants pour le jour de Christ, c'est absolument essentiel au regard de ceux qui se comportent comme si Christ n'avait jamais rien accompli dans leur vie. On pourrait paraphraser ainsi le propos de Jude. C'est comme s'il leur disait « Je vais vous dire des choses très dures et je vais dénoncer des doctrines et des comportements qui montrent que certains parmi vous ne sont pas des chrétiens authentiques. Mais vous qui recevez cette lettre et qui la recevez dans votre cœur, vous êtes authentiques, vous êtes appelés efficacement parce que vous êtes aimés et parce que vous êtes aimés, vous persévérerez et vous serez sauvés au grand jour du jugement. » Voilà donc qui sont les personnes auxquelles ce Jude écrit. Il écrit à des chrétiens. Des chrétiens qu'il veut être authentiques. Troisième et dernière information que ces deux petits versets nous livrent, c'est un souhait, c'est même une prière de souhait qui est donnée de la part de Jude à ceux qui recevront cette lettre. Une prière qu'il adresse à Dieu pour ceux qui recevront cette lettre. Regardez ce qu'il dit. Il dit que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Miséricorde, paix et amour, trois thèmes qui révèlent certains aspects centraux de cette lettre. Et je ne vais pas trop m'avancer sur ces aspects-là puisqu'on va les revoir dans les prochaines semaines. La miséricorde de Dieu, elle est déjà acquise par le lecteur de cette lettre, mais Jude demande non seulement à ce qu'elle soit présente dans leur vie, mais à ce qu'elle soit multipliée. À vrai dire, chers amis, notre espoir repose exclusivement sur la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu comme moi des moments où vous êtes en train de regarder le péché dans toute son horreur dans votre vie et vous vous dites « Je doute ». Je doute de Dieu, je doute qu'il puisse me sauver, et des fois je doute même que l'évangile soit vrai. Ça vous est jamais arrivé des moments comme ça? La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a quelques temps maintenant d'avoir un doute comme celui-là, mais quand même, c'était il n'y a pas si longtemps, vous voyez. Et pendant que je passais par ce moment de doute, je me suis demandé si l'évangile est vrai, si réellement Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs tels que moi, si réellement sa miséricorde est réellement telle qu'elle est décrite dans la Bible et si ça ne serait pas peut-être une autre vérité de ce monde qui serait valable et accessible pour moi. Je me souviens encore ce que je me suis dit quasiment immédiatement au moment même où cette pensée m'est venue dans le cœur. Je me suis dit, si ce n'est pas l'évangile, si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, je suis absolument fichu. Je vous mets au défi de trouver une seule religion dans ce monde qui propose de sauver éternellement ceux qui y adhèrent autrement que par un système d'œuvre ou de dévotion ou de je ne sais quoi. Le seul qui sauve gratuitement, alors que ceux qu'il sauve sont encore des pécheurs, des ennemis de Dieu, la seule doctrine, la seule miséricorde qui est offerte de cette manière-là, c'est l'Évangile. Et sans cette miséricorde, vous êtes fichu. Sans cette miséricorde, je suis fichu. Et sans cette miséricorde, les premiers lecteurs de l'Évangile de Jude étaient complètement fichus. Je dirais même plus, ils étaient foutus. C'était fini pour eux. C'est par cette miséricorde qu'ils sont délivrés de la colère à venir. C'est elle seule qui leur permet d'éviter le sort de l'ensemble de l'humanité déchue. C'est cette miséricorde qui trace le trait entre chrétiens authentiques et ceux qui ne le sont pas. Et aujourd'hui encore, c'est cette miséricorde qui trace un trait entre ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui ne lui appartiennent pas, quand bien même ils professeraient l'être. Cette miséricorde-là, Jude dit, qu'elle vous soit multipliée. Deuxième notion, la paix. Et même si vous n'allez pas la retrouver partout dans l'épître, il est clair que le bien-être spirituel des lecteurs, notamment dans leur relation avec Dieu, est clairement menacé. Je veux dire, il y avait dans la communauté à laquelle Jude écrit des gens qui participaient à tous les sacrements qui étaient offerts dans l'église d'un côté et de l'autre côté qui participaient à la vie d'église jusque dans leur repas fraternel. Parce que Jude leur dit, ce sont des écueils dans vos agapes, ce sont des gens qui sont au milieu de vous quand vous prenez vos repas fraternels, quand vous prenez la scène même. Ils sont là, eh bien ils pervertissaient l'évangile et en le faisant, ces personnes qui sont des hérétiques, on va le voir dans les semaines qui viennent, eh bien ils ont clairement attiré le péché et le jugement sur cette communauté. C'est leur paix avec Dieu qui est en jeu. Et ce que Jude leur dit, c'est que cette paix-là, cette paix avec Dieu, elle vous soit multipliée. Je vous écris pour que vous ayez cette paix et pour qu'elle soit renouvelée, que vous ne la perdiez pas, que vous ne défailliez pas de cette belle relation que vous avez avec Dieu. Et puis il termine avec ce souhait d'un amour divin multiplié à l'égard de ses lecteurs. Cet amour qui sous-tend toute leur vie chrétienne, qui les rend capables d'être appelés, qui les fait persévérer jusqu'à la fin, c'est la marque de leur préservation. Et finalement, c'est en vertu de cet amour que Jude peut être confiant. Si ses lecteurs sont aimés de Dieu, ils tiendront et ils persévéreront. Il sait qu'ils sont gardés pour le jour de Christ. Il sait qu'il peut avoir confiance. Il sait qu'il peut leur écrire ces choses très dures qu'il va faire dans la lettre, dans le reste de la lettre. Il sait qu'il peut le faire parce qu'ils sont aimés et parce qu'ils lui appartiennent. Mes chers amis, ce souhait que la grâce, la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés, ce souhait-là de Jude, n'est pas pour tout le monde. Il y a quelques années, je faisais de l'évangélisation. J'étais très zélé quand j'étais jeune. Des fois, je repense à ma jeunesse chrétienne. Vous savez ce que je faisais ? Tous les jours, j'allais évangéliser au RER, le train à côté de chez moi. J'ai perdu cette habitude. Je fais plein de choses maintenant. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça, mais j'étais vraiment zélé. Et je me souviens de cela. J'avais beaucoup de choses où je n'étais pas très futé dans ma vie chrétienne. Beaucoup d'erreurs que je regrette. Beaucoup de choses dont j'ai honte. Mais je me souviens avoir fait ça. Je me souviens avoir un jour parlé à un Égyptien. Il était musulman. Il sort du métro, sort du train plutôt, il s'arrête devant moi, et on commence à discuter, je lui parle de l'évangile, on avait beaucoup de mal à communiquer. Il est venu plusieurs fois à l'église, j'ai vraiment cru qu'il allait se convertir. Et puis un jour, il a disparu sans laisser de trace. J'avais peut-être 6 mois de vie chrétienne quand c'est arrivé. J'étais tellement découragé. Non seulement je me rendais responsable du fait qu'il soit parti, j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi j'aurais eu à penser comme ça, j'avais rien fait de spécial pour qu'il parte. Mais je me disais réellement, peut-être qu'il est perdu, il ne reviendra jamais, peut-être que j'ai loupé mon occasion. Vous voyez qu'à cette époque-là, je n'étais pas vraiment très au fait des doctrines de la grâce et du fait que si quelqu'un se tourne vers Christ, c'est uniquement par l'œuvre de Christ, certainement pas par ma puissance de conviction, n'est-ce pas ? Et je me souviens en avoir pleuré, être parti voir mon pasteur à l'époque et je lui avais dit, je suis vraiment triste, j'ai l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour amener cette personne au Seigneur. Et lui, il m'a juste dit, « Écoute, mon frère, s'il est au Seigneur, il reviendra. » Quel encouragement ça a été pour moi. « S'il est au Seigneur, il reviendra. » Chers amis, ceux qui sont au Seigneur reviennent toujours. Et si vous êtes toujours revenus, c'est probablement parce que vous êtes au Seigneur. Vous connaissez les péchés les plus sombres, les affres de votre vie, toutes les difficultés, toutes les choses horribles qui vous traversent la tête. Je suis convaincu que si on mettait une puce qui enregistrait vos pensées pendant 2 ans, la dernière chose que vous voudriez, c'est qu'on fasse une projection publique devant toute l'Église. Parce que vous savez vous-même de quoi vous êtes fait, mais en même temps, vous savez que vous êtes toujours revenu à Christ, parce que c'est sa grâce qui vous soutient de A jusqu'à Z. Mais il y a des personnes qui ne reviennent pas. Jean en parle dans son épître. Et Jude trace d'emblée une ligne de démarcation. Il y a ceux qui sont appelés, qui sont au bénéfice de la miséricorde de Dieu, et il y a ceux desquels on ne peut pas parler en ces termes. Il y a ceux qui sont aimés, mais aussi dur que cela puisse paraître, il y a ceux qui ne le sont pas, en tout cas pas de cette manière efficace-là. Oui, Dieu fait pouvoir sur les méchants et sur les bons, mais il n'aime pas le pécheur qui se repent comme celui qui ne se repent pas. Et nous savons que la repentance est un don de Dieu. Il y a ceux dont l'avenir éternel est assuré, et il y a ceux pour qui la mort est un grand point d'interrogation. Et j'aimerais juste poser une simple question en conclusion. Dans quel camp es-tu ? Cette lettre est au fond une lettre d'encouragement pour ceux qui sont à Christ. Il leur dit, il commence comme ça, il leur dit, soyez rassurés. Soyez rassurés, Dieu ne laisse jamais tomber les siens. Soyez rassurés, vous êtes aimés, votre avenir éternel est assuré, vous êtes appelés. Et il leur dit en plus, et je prie pour vous. Et vous, êtes-vous concernés par cela ? Êtes-vous appelés ? Êtes-vous aimés ? Êtes-vous en alliance avec Christ ? Il n'y a pas aujourd'hui des chrétiens de haut niveau et des chrétiens de bas niveau dans cette salle. Il y a ceux qui sont rachetés par le sang de Christ et il y a ceux sur qui la colère de Dieu demeure. Et ma prière simplement, alors que nous terminons l'exposition de ces 2 petits versets qui servent simplement à introduire cette toute petite lettre, c'est que nous nous souvenions de cette immense, infinie réalité, de ce que nos vies vont s'arrêter un jour et qu'il faudra rencontrer notre Créateur. Ma question, elle est très simple. Est-ce que vous êtes prêt comme les lecteurs de l'épître de Jude l'étaient? Est-ce que vous appartenez à Christ comme il lui appartenait? Est-ce que vous pouvez dire, si je meurs ce soir, je sais que je serai avec lui? Oh, mes amis, que cette question nous dirige non seulement aujourd'hui, mais durant toute cette semaine. Et si vous êtes à lui, comment ferez-vous cette semaine pour partager une telle nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas encore? Que le Seigneur nous dirige et nous garde, alors que nous allons avancer dans cette lettre de Jude, dont le motif est celui du combat par la foi et pour la foi, et que nous apprenions à regarder à nos priorités, à mener ce grand combat et à nous évaluer nous-mêmes à mesure que nous cheminons avec ce texte. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que nous avons lu ensemble et appris de ces deux versets aujourd'hui. Merci de ce que tu donnes à ceux qui t'appartiennent les plus merveilleuses promesses, un appel efficace, un appel qui nous scelle pour la gloire, un amour qui non seulement est le fondement de cette grâce, mais qui, en plus de cela, nous soutient et nous porte jusqu'à la fin. Et tu nous gardes, Seigneur, jusqu'au bout, porté jusqu'au grand jour de Christ, parce qu'il y aura un tel jour. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie de ce que tu permets que nous entendions ces choses aujourd'hui et tu permets que nous nous questionnions quant à notre avenir éternel, quant à notre identité en Christ, quant à notre appartenance à toi. Merci parce que tu fais tout cela, Seigneur. Merci parce que tu te rappelles à l'Église de la Trinité dans ce que tu as accompli pour elle dès le commencement. Et je veux te prier pour que si qui que ce soit aujourd'hui n'a pas la paix ou n'a pas l'assurance de t'appartenir, Seigneur, que tu ne les laisses pas quitter cette salle sans que nous puissions ensemble l'accompagner et l'aider. Seigneur, je te prie pour que tu nous gardes ensemble alors que nous cheminerons avec cette petite épître, pour que tu nous diriges, mais aussi, Seigneur, que tu nous reprennes, que tu nous montres quelles sont nos priorités en tant que communauté. Bénis ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, Seigneur, et encourage-les par ton esprit de la même manière que tu nous encourages au travers de ta parole et par ton amour, Seigneur. Merci parce que tu es bon pour nous et parce que ta miséricorde durera toujours. Que ton nom soit glorifié. Amen.